aux prévisions les plus pessimistes de Joseph, lorsqu'elle montre des hommes qui ramassent des ballots ficelés à la hâte et s'entassent dans des autobus sous le contrôle de la police française. Plus tard, ces mêmes images en noir et blanc projetteront aux yeux des incrédules les portes de wagons plombés, le brouillard de gare dont on ne revient pas. Maxime a refusé de se rendre au commissariat pour faire apposer sur ses papiers d'identité le tampon rouge infamant. Cette décision est cause de conflit au sein de la famille. Esther et Georges ont répondu à l'appel. Élise et Marcel résistent encore. Joseph attend la décision de son fils. Tous en débattent au cours d'échanges houleux. Travailler ses muscles devient un défi à la lâcheté et à la soumission. Maxime s'entraîne avec une énergie nouvelle. Jamais il n'a remporté autant de victoires, triomphé de ses adversaires avec si peu d'efforts. Il voudrait couvrir sa poitrine de médailles, monter sur la plus haute marche du podium. Il emmène Anna et Simon au stade chaque dimanche. Le petit garçon est la fierté de son père. Sa silhouette déliée fait merveille dans les enchaînements, équilibre et saut périlleux. Bientôt, il se lancera dans les agrès et s'initiera à la lutte. Plus jeune que Maxime, Robert a été mobilisé sur le front de l'Est. Tania s'est occupée de la succursale de Lyon aussi longtemps que possible, mais les difficultés causées par la lenteur de l'approvisionnement, la fermeture des usines, l'ont contrainte à mettre la clé sous la porte. Elle est rentrée à Paris pour loger de nouveau Hubert, chez sa mère. Son isolement l'a poussée à se rapprocher de la famille de son mari. Elle voit Maxime et Anna régulièrement. Les soucis qu'elle a connus à Lyon, l'angoisse éprouvée chaque jour à l'ouverture du courrier, ont laissé leurs traces sur son visage. Les traits tirés, elle prend moins soin de son apparence, mais au détour d'un sourire, à la faveur d'un geste, Maxime retrouve face à elle son éblouissement d'autrefois. Un dimanche, Louise, Georges, Esther et Tania accompagnent Simon et ses parents à l'Alsacienne pour juger de ses progrès. On déjeunera sur les bords de Marne, on se régalera de fritures et de vin blanc. L'après-midi, Simon fera la démonstration de ses talents. Tania, si elle le souhaite, pourra renouer avec son entraînement. Lorsqu'après le repas, elle fait son apparition, moulée dans son maillot noir, Maxime prend conscience du véritable motif de son invitation. La contempler dans cette tenue. Il retrouve au fond de sa gorge la sensation douloureuse qu'il croyait avoir oubliée, bouleversé de nouveau par cette vision, comme au jour de son mariage. Du haut du plongeoir, Tania s'élance, décrit une trajectoire parfaite, avant de disparaître sous la surface de l'eau. Maxime ne peut détacher ses yeux de la ligne de ses épaules, de cette taille, de ses jambes ciselées. Anna applaudit, avant de chercher le regard complice de Maxime. Elle n'y voit que Tania. Elle connaît suffisamment son mari pour y lire un désir fou, une fascination qu'il ne songe même pas à dissimuler. Jamais il ne la regardait ainsi. Elle se tourne vers Esther et Georges. Tous ses yeux brillent pour Tania de la même ferveur. Elle ne trouve de soutien que dans le regard de Louise, qui a compris et tente de la rassurer d'un sourire. Elle vacille. Dans un brouillard, elle entend les bravos qui saluent un nouvel exploit de Tania. Celle-ci sort, ruisselante de la piscine, secoue sa lourde chevelure, et Anna est saisie par l'image de couple idéal qu'imposent les deux sportifs. Ils sont sur leur territoire. Le stade leur appartient, ils rayonnent. Georges et Esther ont la même pensée, elle en est persuadée. Son tempérament ne l'a jamais poussée au combat, aussitôt elle voudrait disparaître, s'effacer pour leur laisser la place. La journée s'assombrit. Elle va passer le reste de l'après-midi auprès de Simon, l'embrassant, le serrant dans ses bras, plus proche que jamais de son fils. Esther et Tania, devenues complices, égayent de leur rire les dîners du dimanche, éloignant les menaces. Anna s'efface, dans l'ombre de ces deux femmes, avec lesquelles elle ne peut chercher à rivaliser. Elle disparaît derrière la bonne humeur et le bavardage incessant d'Esther. Elle se soumet à la beauté triomphante de Tania et, vaincue, se réfugie auprès de Simon. Leur quotidien est rétréci par les privations, mais illuminé par des éclaircies. Ces dîners, organisés par Esther avec le peu dont elle dispose. Toute une table est réunie qui s'interdit, le temps d'une soirée, d'évoquer les rigueurs de l'époque et laisse les ombres derrière la porte. Le port de l'étoile est devenu obligatoire. Une gifle pour Maxime, qui ne peut plus rien opposer à ceux qu'il a tenté de rassurer. Les inquiétudes de Joseph, les craintes des commerçants voisins étaient fondées. La perspective d'arborer l'insigne jaune anéantit tous ses efforts, le rallie de force à une communauté avec laquelle il voudrait prendre ses distances. Pire, l'ennemi n'est plus l'envahisseur, mais son pays lui-même qui le range du côté des proscrits. Il décide une fois encore de désobéir. Ce chiffon ne viendra pas salir ses costumes de prix, ni humilier sa famille. La tension avec ses proches devient électrique. Georges lui reproche ce qu'il considère comme un reniement. Esther et lui porteront l'étoile avec fierté. Pourquoi devrait-il en avoir honte? Chaque discussion est l'occasion d'une nouvelle empoignade. Joseph ose à peine s'adresser à son fils, tente parfois de lui faire entendre le risque que sa décision fait courir à sa femme et à Simon. Maxime balaye avec colère ses arguments. Rien ne le désigne aux yeux de l'ennemi. Pourquoi l'inquiéterait-on? A-t-il le nez aquilin, les doigts crochus, le menton fuyant que les affiches de la terrible exposition du palais Berlitz proposent aux Parisiens pour leur permettre de reconnaître les ennemis de la France? Louise a obéi. Elle a cousu l'insigne à sa poitrine. Elle ne s'est pas sentie la force de se dérober. Mais l'étoile lui pèse. Plus encore que la lourde semelle de sa chaussure orthopédique. Maxime passe la voir chaque jour, discute avec elle, s'inquiète de son avis sur la situation. Il voudrait lui reprocher sa capitulation, mais le visage défait de son ami l'en dissuade. Il ne peut plus reculer. Le lutteur sait à quel point une seconde d'hésitation, un regard qui défaille, un geste incertain peuvent profiter à l'adversaire. Cette mesure est peut-être le signe qu'il attendait. Il lui faut franchir la ligne de démarcation avec Anna et Simon. À plusieurs reprises, il va en parler à Louise. Elle tentera d'abord de l'en dissuader, effrayée par le danger, mais devant sa détermination, lui proposera une solution. Une de ses cousines travaille à la mairie de Saint-Gaultier, une petite commune de l'Indre. Elle la joindra pour organiser avec elle leur accueil. Maxime est persuadé que le passage en zone libre reste la seule issue possible. Le dimanche suivant, il organise chez Georges un conseil de famille afin de recueillir l'avis de tous. Élise, protégée par le patronyme de Marcel, veut rester à Paris. Les réunions avec ses amis politiques sont une nécessité pour elle. Elle va participer à l'organisation d'un réseau de résistance. Georges et Esther se disent prêts, pour des raisons différentes. Ils ne supportent plus les privations. Elle est séduite par l'aspect romanesque de l'aventure. Tous deux pensent cependant qu'il serait prudent d'envoyer les hommes, qui sont les plus menacés, en avant-garde. Une fois en sécurité, ils pourront faire signe aux autres. Simon sera du second voyage, avec sa mère. Tania ne veut pas abandonner Martha, qui souffrirait de la savoir loin d'elle. Les femmes pourraient assurer la garde du magasin, puis, accompagnées de Louise, elles prendraient elles aussi la route de Saint-Gaultier. Tout le monde décide de s'accorder une semaine de réflexion. Simon, pendant ce temps, est-il sensible à l'inquiétude de ses regards? Il surprend des conversations, entend parler de départ. Sans doute ressent-il le désarroi de son père, l'angoisse de sa mère. Mais il reste le véritable centre de cette constellation. Comme Maxime, il sait obtenir d'un sourire ce qu'il désire. La vie lui appartient. Dans le quartier, il croise des voisins, des inconnus, qui portent cette étoile sur leur cœur. Il la voudrait aussi. Peut-être même a-t-il demandé à Anna de la coudre à son gilet, afin de l'arborer fièrement, comme les médailles de son père. Tania a retrouvé Hubert, sa chambre de jeune fille. Les activités de couturière de sa mère leur assurent à toutes deux un minimum de confort. Elle s'est habituée à la situation. Robert n'est plus au centre de ses préoccupations. Ses mains ne tremblent plus à l'ouverture du courrier. Elle a reçu quelques lettres optimistes. Il ne se plaint pas, il a la chance de ne pas se trouver au centre des plus violents combats. Il l'assure de son amour et lui dit qu'ils feront un enfant dès son retour. Ces années à Lyon ont confiné Tania entre le magasin de literie et le petit appartement.